Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h08, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h à midi. Alors si vous avez manqué nos débats sur Barcola, sur Fabien Galthié, sur Luis Enrique, vraiment je vous invite expressément, précipitez-vous sur le podcast parce que c'était très très chaud dans le studio RMC avec ce matin Christophe Cessieux, Jérôme Pinault, Marion Bartoli et Fred Weiss. Dans quelques instants, la seconde des GG, les calendriers surchargés au cœur du débat depuis plusieurs jours en foot, en tennis. Le sport d'aujourd'hui est-il en train de tuer les sportifs? 11h30, le débat caché. Vous le savez, les GG ne savent rien et pourtant elles vont devoir débattre. C'est quoi le débat caché du jour? D'après vous, c'est quoi ma proposition, Fred Weiss?
Moi, j'avais envie de parler de basket pour changer. J'ai l'impression qu'une page se tourne dans le basket français, dans l'équipe de France. On a Vincent Collet qui a arrêté, Nicolas Batum aussi. Et on vient d'apprendre que Nando De Colo a arrêté l'équipe de France. Donc, je pense que ça pourrait être un débat caché.
Très bien. Mais toi, t'as envie d'en parler, mais c'est pas pour ça que j'ai envie de le proposer.
Mais ça, on peut le négocier.
Mais ça, bien sûr, avec plaisir, Fred. On peut tout négocier. Marion Bartoli.
Je pense que ça va être sur Caroline Garcia, l'annonce de la fin de son année, avec le long message qu'elle a posté sur Instagram, et on ressent quand même beaucoup de détresse chez elle.
Ok, beaucoup de détresse, c'est vrai, chez Caroline Garcia. C'est une bonne proposition pour un débat caché. Jérôme Pinault.
Moi, tu n'as pas parlé beaucoup de football, alors tu vas nous parler de futsal et de ce match truqué entre France et l'Iran.
Oh oui. Ah, la tricherie en futsal, vous avez vu. Enfin, la tricherie. Et où ils ont levé le pied pour pas terminer premier du groupe.
Ça, c'est un beau sport pour les Jeux d'hiver.
Ouais, bah ouais, aussi, ouais. Parfait.
Ouais, alors ça n'a rien à voir, mais ok.
Je vais parler de ça.
Les soupçons, d'ailleurs, les autres équipes étaient vent debout. Hein, et d'ailleurs, l'équipe de France de futsal qui s'est qualifiée, qui a battu hier la Thaïlande.
Bah oui,
elle est tombée
du jus contre les Thaïlandais.
Elle est tombée dans la meilleure partie de tableau. Elle affronte la Thaïlande et elle l'a battue. C'est tactique aussi.
C'est stratégique.
On pourra en parler.
Moi, je me dis qu'on est un week-end quand même de championnat du monde de cyclisme. On en a à peine parlé dans le zapping. C'est quand même un peu l'edge. Donc, si tu es un rédacteur en chef consciencieux et conscient de la réalité du sport, je pense que tu peux nous faire un débat sur le vélo aujourd'hui. Sinon, ce serait vraiment une erreur.
Mais bon, je te connais, mais par cœur, Christophe.
Non, pas du tout.
Mais je connais mon Christophe et je sais qu'il a vu quelques messages sur les réseaux sociaux où certaines personnes se plaignaient de ne pas avoir de vélo.
On en fait un débat demain. Du foot, on en fait des débats. On en fait 4 par émission du foot. Ton Mbappé, il n'est pas là. T'en fais quand même tous les jours, tous les week-ends. T'en fais du Mbappé.
J'adore Mbappé.
Il y a un championnat du monde une fois par an. Tu peux quand même faire un débat le samedi et le dimanche.
Et demain, Chris.
Non, que le dimanche.
Eh bien, vous savez quoi? Demain, on parlera de l'équipe de France.
Aujourd'hui, il y a des féminines.
De Thomas Vauclair. Promis, on en parlera demain. Mais peut-être dans le débat caché, sait-on.
Oui, c'est pour ça que je dis ça.
Tu sais quoi?
T'as intérêt.
C'est pas impossible.
T'as intérêt.
C'est pas impossible. Regarde-moi. Je sais, on est à la télé, mais regarde-moi.
À la télé, à la radio, tu verras.
Le débat caché va te plaire, Christophe.
Ah bon?
Il est fait pour toi, fait sur mesure. Je pense à toi, je pense à mes ouailles.
Un truc d'ancien, quoi.
Ok, les copains. Et puis 11h45, s'il y a quelque chose qui vous a choqué, si vous n'êtes pas d'accord avec une GG, eh bien vous composez le 32-16, c'est votre moment, à vous aussi, les auditeurs. On va redébuter cette nouvelle heure avec un proverbe anglais qui dit « La mort ne consulte aucun calendrier ».
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
J'adore football, je mange football. Je respire football.
Oh, laisse tomber, j'en ai marre.
Griezmann, deux petits pas d'élan dans la surface de réparation. La tête.
Si on l'avait perdu le titre, est-ce que ça aurait été si grave?
Le très très haut niveau, c'est une machine à laver. On joue tout le temps, on s'arrête jamais. Et en ce moment, voilà, j'ai l'impression un peu d'étouffer. Et le joueur qui est en train de bouffer l'homme.
Qu'est-ce que je te dise? Je comprends rien, moi, à ce qui se passe. Tout allait si bien et d'un seul coup, tout va si mal.
Le coup franc de Griezmann pour l'équipe de France, il est rentré vers Giroud. Avec Kocsilev qui a du mal, la tête est reprise par Varane. Le but est accordé à Raphaël Varane.
C'est terminé, rien n'est terminé.
J'ai tout donné, physiquement, psychologiquement.
Tu continues à cause de vous? C'était pas ma guerre.
Et oui, nous allons parler de Raphaël Varane dans ce débat. Alors, les mauvaises langues diront...
J'ai cru que t'allais le dire en anglais, le proverbe. J'ai commencé à y avoir peur.
Non, pas du tout. Non, sinon, même moi, je ne comprends pas. Donc, les mauvaises langues diront, au moins maintenant, il va pouvoir se reposer. Quelques jours après sa sortie médiatique où il envisageait de faire grève, Rodri, le milieu de terrain de City, s'est gravement blessé au genou le week-end dernier fin de saison actée pour l'international espagnol. En plein débat sur les calendriers surchargés, vous avez entendu la production, Raphaël Varane a annoncé mercredi qu'il prenait sa retraite, lui qui avait déjà fait part de son mal-être physique et mental. Des débats qui ne concernent pas que les footballeurs, les tennismen s'y mettent aussi. Carlos Alcaraz cette semaine, deux points, ouvrez les guillemets, le calendrier va probablement nous tuer d'une façon ou d'une autre. La musique qui fout les jetons. Et cette question, le sport d'aujourd'hui est-il en train de tuer les sportifs? Oui ou non? Fred Weiss?
Non.
Christophe Cessieux?
Oui.
Jérôme Pinault?
Non.
Marion Bartoli?
Non mais.
Non mais, il y a une nuance évidemment. Et puis on vous attend sur ce débat, et notamment Marion et Fred, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais Marion, tu as arrêté ta carrière extrêmement jeune, au haut niveau, et Fred, c'est aussi pareil pour d'autres raisons, mais tu as aussi mis un terme assez jeune à ta carrière, alors que tu aurais pu jouer encore 5 ou 6 ans. Avant de débattre, je vous propose d'écouter Jules Koundé. C'était la semaine dernière en conférence de presse, Jules Koundé qui revenait sur ses calendriers surchargés.
Je pense que chaque année le calendrier s'allonge. Chaque année nous avons plus de matchs et moins de temps de repos. Et au final, ce n'est pas un manque de volonté de le dire. Je pense que cela fait 3, 4 ans, voire plus que nous le disons. Mais personne ne nous écoute. Nous, les joueurs, nous sommes les principaux concernés.
Et voilà, en espagnol dans le texte pour l'international français Jules Koundé. Le sport est-il en train de tuer les sportifs? C'est notre débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio, avec donc cette menace de grève, mais aussi quand on voit qu'un joueur si jeune et si talentueux, Raphaël Varane, à 31 ans, arrête sa carrière cette semaine. Christophe Cessieux, pourquoi oui, tu es le seul?
C'est marrant parce que vous dites tous non, alors qu'à vous regarder, on comprend bien que le sport, effectivement, même s'il ne tue pas les sportifs, ça les abîme quand même. Hein, tous autant que vous êtes, quand même, hein, vous m'avez l'air...
Il n'y a pas que le sport, a priori le journalisme aussi. Hein.
Ouais, t'as même pas l'excuse du sport, toi, c'est ça?
Ouais, c'est vrai. Bah non, c'est de voir vous supporter toutes les semaines, tu te rends pas compte, ça use. Avant, j'étais bien avant de faire cette émission.
Et pourtant, maman ressemblait à bébé, alors je ne dis pas le boulot quand même.
Attendez, les copains. Très bonne quiche pour commencer, Christophe, t'as raison, faut toujours attaquer.
On avait.
Mais plus sérieusement sur le sujet, pourquoi tu penses que oui?
Bon, alors. Je sais pas, vous dites tous non, quoi. Alors que tous les sportifs sont en train de dire, on est au bout du rouleau, on dispute de plus en plus de matchs, les blessures sont de plus en plus régulières et de plus en plus importantes. Regarde ce qui se passe en foot, on veut multiplier encore pour avoir de plus en plus de rentrées d'argent. Tu augmentes le nombre de matchs en Ligue des Champions, tu crées une Coupe du Monde des clubs. Regardez ce qui s'est passé à l'Euro. Est-ce que pour vous c'est normal? Est-ce que vous avez assister à un spectacle fabuleux avec des joueurs en pleine forme? Non, tout le monde se reconnaît à dire que l'Euro était d'un faible niveau parce que les mecs sont cuits, ils sont exsangues, ils sont pressés comme des citrons. Et encore ceux qui arrivent sans se blesser à cet Euro. Mais les mecs, à force de trop leur faire de matchs, n'en peuvent plus. Et évidemment, c'est le cas du foot, mais c'est aussi le cas du rugby. Le rugby, alors évidemment, on peut pas multiplier le nombre de matchs, c'est-à-dire que tu ne peux pas faire plus d'un match par semaine. Mais vu la puissance des mecs, le poids, le muscle qu'ils prennent, les chocs sont de plus en plus importants. Je me demande dans quel état seront la génération actuelle et celle qui est en train d'en terminer dans 20 ans. Ils ont tous été victimes de commotions cérébrales, ils sont tous en train de venir gâteux. Et vous pensez pas que le sport est en train d'abîmer ses sportifs? Et en vélo, Jérôme, quand tu vois les mecs aujourd'hui qui vont de plus en plus vite dans les descentes avec des matériels de plus en plus sophistiqués, les gamelles à répétition qu'il y a eu tout au long du printemps, des gars comme Vingegaard qui a failli mourir sur la route, des gars comme Wout van Aert qui étaient dans le même état. Vous trouvez pas que le sport en ce moment dépasse les limites
là,
et fatigue les mecs?
La chute, elle a lieu au mois d'avril au Pays Basque, c'est rien à voir avec le
surmenage. Non, c'est pas le surmenage, mais c'est le nombre de courses, la pression que tu mets sur les coureurs dans les descentes, les mecs.
Tu sais combien court, tu veux que je te prends le contre-pied de suite sur le vélo? Tu sais combien de jours de course?
C'est des problèmes différents. En vélo, c'est pas le nombre de jours. C'est du travail. Si tu bosses sur des vélos de plus en plus sophistiqués, qui ne supporte pas la moindre erreur de trajectoire ou le moindre truc.
Mais c'est la préparation qui compte, c'est la durée. Moi, je pense que le débat, il est aussi est-ce que le nombre d'années en carrière sera le même? Non, il faut juste considérer que ta carrière sera plus courte et qu'il faut que tu fasses ces sacrifices.
D'accord.
Pour que sur les 5 à 6 ans.
Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de bosser sur 15 ans, tu bosses sur 10 ans.
Moi, j'ai fait 14 ans de carrière, je te promets que je suis l'un des derniers qui fera 14 ans à ce niveau-là. C'est fini en vélo, en tout cas.
Commencera plus tôt, non?
Et il commence plus tôt. Voilà, Christophe, c'est là où moi je voulais en venir, c'est le football. 31, tu dis Varane, ok. Mais il est pro depuis qu'il a 12 ans.
17 ans,
mais
bien sûr.
17, mais avant, les gars. Parce que quand t'as 12, 13, 14 ans, que t'es déjà
en centre de formation,
où tu penses football, tu n'es plus que footballeur. Donc c'est ça qui rince. Chez les gamins, les agents, Christophe, dans le cyclisme, ils vont chercher les cadets. Les cadets. Le fils d'un grand champion, Sylvain Chavanel, est aujourd'hui dans l'œil d'une énorme formation World Tour. Déjà, il a 16 ans. Donc les gamins, évidemment que au bout de 15 ans, ils sont là. On parle de blessures. Effectivement, il y a certains sports, je pense qu'ils devraient revoir aussi la prépa physique. Comment on prépare une saison? Qu'est-ce qu'on fait après et avant un match? Et quand on part en tournée ou en stage? Il faut bien tout mesurer. Bon,
enfin, je pense que c'est assez professionnalisé là-dedans quand même.
Des joueurs de plus en plus âgés aussi qui jouent, parce que moi je prends l'exemple du basket. LeBron James à 40 ans, ça n'existait pas.
Hygiène de vie irréprochable. Cristiano Ronaldo.
En tennis, Djokovic continue.
Bien meilleure qu'avant, évidemment. Travail physique et préparation mentale aussi maintenant.
Nutrition.
Alors oui, il y a des exemples inverses, mais parce que physiquement, on a tous peut-être des problèmes et on peut craquer. Mentalement, on peut tous avoir des problèmes et on peut craquer. Moi, j'avais les deux, donc c'est pour ça que j'ai arrêté tôt. Mais concrètement, ça met juste en exergue le fait qu'être sportif de très haut niveau, c'est difficile.
Donc, ce sont des épiphénomènes là.
C'est des épiphénomènes, bien sûr. Ça voudrait dire quoi? Djoko, Ronaldo, LeBron James, ça n'arrivait pas avant. Il y a une explication à ça aussi. Parce qu'on a progressé sur plein de choses. Parce que, oui,
Tu parles de trois extraterrestres, Fred. Est-ce que tu penses que Djokovic, LeBron James, c'est la norme du sport mondial aujourd'hui?
Alors, combien je peux citer de mecs de plus de 35 ans, 36 ans en NBA, alors qu'ils font 82 matchs en 5 mois?
Ouais. Non, mais Fred.
Exactement.
Fred, il y a aussi, il y a un côté
fou, en fait. Il y a préparation physique et mentale et de nutrition et tout ça. Ça a tellement progressé que tu vas progresser, que tu vas jouer de plus en plus longtemps.
Il y a un côté générationnel. Aussi pour moi, il y a aussi un côté générationnel. C'est, tu vois, j'ai vécu cette expérience-là. Aujourd'hui, le sportif de très haut niveau, de pro, il est plus capable d'assumer qu'il est juste ça à faire. Il a besoin de faire autre chose. On entend Jules Koundé. Koundé, il fait beaucoup de choses à côté.
Ouais.
Dès qu'il a un peu de temps, il va faire des défilés, etc. Ouais. Moi, j'ai des coureurs. Un jour, j'ai un coureur, je le cite parce qu'il m'a fait bien suer après. Corentin Hermenaud, grand talent. Le gamin, je le recrute. Et sa première année, il a certes pas les résultats escomptés, il a besoin de souffler, il coupe. Mais au lieu de couper 8 jours, il est parti sans nouvelles pendant 3 semaines. Je l'appelle, il me dit « je suis sur un bateau, j'ai pas la tête à ça ». La génération d'aujourd'hui, elle est comme ça. Si elle a pas envie, elle fait pas. Et là, on entend des choses s'élever, contre quoi? On n'a plus le temps de voir les potes, de sortir, de profiter de la vie.
Parce qu'on avait cette philosophie différente.
On avait des gens professionnels pendant lesquels, par moment, on acceptait d'être un peu moins bon. Aujourd'hui, ils veulent être bons, ils veulent être payés pareil, deux fois plus qu'avant.
Voire plus.
Et d'avoir et du temps pour eux. Eh ben, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Eh ben, c'est pas possible. Donc, quand on peut plus ça,
ne peut pas être
là, je rejoins ce qu'a dit Varane, c'est fabuleux. J'ai eu peur que le sport, j'ai senti que le footballeur dépassait l'homme. J'arrête. Bah, très bien, chapeau. Mais c'est pas grave en fait. T'arrêtes, t'as fait ton temps.
Mais
c'est
dans le sport, tu peux pas te mentir de toute façon. À partir du moment où tu peux plus te lever le matin, tu as mal partout, tu as mal à la tête,
mal là, ou plus capable d'y aller, de faire mal.
Ou mal physiquement, tu peux plus le faire. T'es jugé à chaque fois que t'es en représentation.
Donc en fait, il faudra avoir des gamins de 15 ans, de 15 à 25 ans, ce sera le sport de l'avenir, et à 25 ans, ce sera la retraite. Il faudra gagner beaucoup d'argent pendant 10 ans.
Chaque histoire est évidemment différente, mais j'imagine que Marion, tu te reconnais un peu dans ce qu'a pu dire Raphaël Varane et dans son histoire d'arrêter tôt, parce que toi t'as arrêté à 30 ans, hein, je rappelle ta carrière.
J'ai arrêté à 29 ans et moi j'ai arrêté pour une rupture du tendon de l'épaule, donc simplement j'avais plus d'épaule pour pouvoir jouer, mais si mentalement j'étais pas cramée du tout, surtout en ayant gagné un grand chelem, j'avais l'impression de pouvoir soulever des montagnes, mais simplement physiquement je n'arrive plus à continuer à assumer les deux entraînements parce que mon corps était cassé. Mais comme je l'ai toujours dit, j'ai préféré avoir fait 15 ans de carrière au plus haut niveau en devant m'entraîner effectivement plus que les autres parce que j'avais moins de talent que les autres, mais pour aller vraiment chercher un grand titre, que de faire une carrière moyenne pendant 20 ans. Donc ça m'intéressait pas d'être sur la durée, ça m'intéressait d'aller chercher un très grand titre. Et la période dans laquelle j'ai joué, qui était extrêmement relevée, m'obligeait à pousser la machine extrêmement loin tous les jours. Donc effectivement, tu t'uses un peu plus vite. Mais je n'ai aucun regret là-dessus. Pour en revenir sur ce qui a été dit par Fred et Jérôme, je les rejoins totalement. Les saisons de NBA, c'est 82 matchs, 41 à domicile, 41 à l'extérieur. Et vous connaissez les distances de déplacement aux États-Unis. C'est comme ça depuis les années 76-68. J'ai repris l'année de Djokovic 2015, qui est considérée comme la plus grande tennistique réalisée par un joueur. Il avait 28 ans, puisqu'il est né en 87. Il a joué 88 matchs, 82 victoires, 6 défaites, 3 grands chelems remportés. Il perd en finale de Roland-Garros, donc il joue les 4 finales du tournoi du Grand Chelem. Il a fait toute l'année, donc 52 semaines numéro 1 mondial, 6 Master 1000 remportés, finale de 8 Masters.
Mais, oui, mais tu parles d'un extraterrestre.
Mais attends,
il y a des mecs qui viennent de l'univers, du fin fond de l'univers, laisse-moi. Et qui sont des super-héros. Il y en a quelques-uns dans toutes les disciplines.
Laisse-moi terminer, s'il te plaît. En 2011, quand je considère avoir fait ma meilleure année tennistique, j'ai joué 84 matchs. Aujourd'hui, Carlos Alcaraz, on est quasiment au mois d'octobre, il a joué 52 matchs et j'inclus la Coupe Davis, les matchs de Lever Cup et les matchs de.
Et il va en Lever Cup, exactement.
52 matchs. Aujourd'hui, quand il va sur la tournée sud-américaine avant de jouer Indian Wells Miami, personne l'oblige. L'ATP n'oblige absolument pas les joueurs à jouer ce genre de tournée. Aujourd'hui, les tournois qui sont obligatoires, c'est les 4 tournois du Grand Chelem et les 9 Master 1000. Point. Le reste, vous le rajoutez ou pas à votre programme, c'est votre propre décision.
Mais pourquoi il se plaint, Marion, alors?
Mais parce que effectivement, on est dans une année olympique, il a bouffé énormément d'influx nerveux. Mais moi, je fais que commenter entre guillemets cette année en rajoutant les Jeux Olympiques. Je sens une fatigue supplémentaire quand j'arrive au mois de septembre, parce que le temps de coupure que j'avais pendant l'été, je l'ai pas eu, parce qu'il y a un enchaînement supplémentaire, parce que normalement après Wimbledon, tous les joueurs prennent 10 jours de vacances, vont se reposer, se ressourcer avant la tournée américaine. Que là, ça a pas été possible, qu'il a fallu repasser sur notre surface et qu'il a l'impression de jamais vu ou pu coupé pendant cette saison. Mais il va apprendre. Déjà, toutes les années, bien évidemment, ne sont pas olympiques. Il va apprendre aussi à dire non à des tournois qui, certes, lui proposent des énormes garanties en millions de dollars, parce que là, on parle de millions de dollars.
Mais il va gérer sa carrière, tout simplement.
Il
va apprendre, comme tu le dis, à choisir ce qu'il faut et avancer comme il faut.
Il a 21 ans. Et il va apprendre à choisir ses moments dans les saisons, à choisir les moments importants, les plages de repos, et à privilégier ça par rapport à aller jouer des tournois qui le payent énormément d'argent. Il va apprendre, bien sûr. Aujourd'hui, cette année, je pense qu'il écarte ça parce que c'est une année olympique, il a l'impression de ne pas avoir pu couper ou avoir eu le temps de couper, ce qui est effectivement réel. Mais il va apprendre à choisir son calendrier, donc, à choisir ses tournois. Mais pour moi, le foot, c'est pour ça que j'ai dit mais. Parce qu'effectivement, le foot, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette espèce de surenchère, vouloir rajouter des matchs, des compétitions, etc., qui me paraît un petit peu dangereux. Donc, c'est pour ça que j'ai dit mais, parce que pour le foot.
Voilà,
j'ai l'impression que ça devient un petit peu trop. C'est pour ça que je me suis permis de nuancer dans mes propos. Mais en tout cas, pour ce qui est du tennis, qui est mon sport, je vous démontre par A plus B sur des saisons qui ont été les miennes en 2010-2011, qui ont été celles de Djokovic à des années différentes par rapport à Carlos Alcaraz. Non, les saisons ne sont pas plus remplies et non, il n'y a pas plus de
matchs. Sur le football, je pense que l'exigence de la récupération et l'exigence de la prépa physique et l'exigence de l'athlète avant le footballeur va être de plus en plus prépondérante pour les footballeurs à l'avenir. Moi, je pense qu'il est laissé beaucoup trop de côté ce côté récup entre deux événements.
Et
qui vont se rapprocher.
Aussi, la gestion d'effectifs aussi.
Moi, j'ai toujours trouvé ça, hallucinant de voir des équipes qui jouent à l'autre bout du pays finir le match, prendre le casse-croûte, prendre le bus et rentrer à des heures pas possibles dans leur ville. J'ai toujours, en tant que sportif de haut niveau, en tant que cycliste, ex-cycliste, j'ai toujours trouvé ça ahurissant. Quand que les gars n'aillent pas à l'hôtel, récup, massage, rentre le lendemain avec des vraies heures de sommeil, quitte à ce qu'il n'y ait pas d'entraînement, mais au moins tu rentres, t'es frais, t'as récupéré, on sait tout ce que c'est.
Il y a
l'adrénaline, etc., juste après le match. Ok.
Tu peux pas aller dormir tout de suite.
Mais tu dois, la suite d'une étape d'un match, c'est là où tu récupères pour la suite.
C'est la régénération.
Il y a plein de choses à mettre en place, je pense, dans le foot notamment. Pour que demain tu puisses enchaîner plus souvent. Aujourd'hui, les gars, ils se pètent pourquoi? Ah ouais, après le match, ils finissent fatigués, il y a pas de récup ou peu. On prend le truc, on prend l'avion, ils rentrent chez eux. Pour certains, c'est des gamins. Ils vivent parfois à l'hôtel. Ils vont aller bouffer un casse-dalle à côté, un fast-food parce qu'il y a plus que ça d'ouvert. On joue là. Et trois jours après, il faut qu'ils rejouent à haut niveau. C'est pour ça qu'ils pètent et qu'ils n'arrivent pas à enchaîner. Moi, je pense qu'il y a aussi ça à réfléchir.
Donc,
il faudrait
qu'ils aient une vie de moine.
Mais c'est pour ça que le sport de haut niveau n'est pas fait pour tout le monde, Christophe.
Et ça, la nouvelle génération a du mal à l'accepter.
Et voilà, okay. Je suis complètement d'accord.
Très bien.
Je suis complètement d'accord.
On a parlé
donc,
de ce sujet.
Multiplions encore, faisons 100 matchs par an. Et puis derrière, tu rentres à l'hôtel, tu te fais masser. Tu dors, on te met des crises. Tu fais de la cryo. Et puis comme ça, tu vas ressortir. Le sport que vous avez envie de nous faire vivre, franchement, moi j'en veux pas. Hein. Dernière, vous regardez. Hein.
Dernier argument à te mettre en avant. Si le sport est si beau, si aujourd'hui, autant de sportifs de haut niveau.
Si tu peux même plus vivre parce que t'es sportif de haut niveau et qu'on te met dans un caisson pour
Christophe, Jules Koundé, il est à la Paris Fashion Week. Chris, il fait des tops en chantier pour Jacques Mus. Me dis pas qu'il vit pas, arrête s'il te plaît.
Toi, quand tu enchaînes les journées à l'antenne et les événements, tu te dis pas, j'ai besoin de faire autre chose de ma vie que mon métier. Ton métier, c'est ta vie, quoi.
Mais oui,
ok, je reprends la main. On a parlé un petit peu de tennis. Sachez que Yannick Sinner avait répondu à Alcaraz cette semaine en disant que le calendrier est bien sûr assez long ces dernières années. Sinner. Mais nous, les joueurs.
Ouais, voilà aussi, voilà les raisons.
Attendez, laissez-moi parler au moins. Tout le monde parle sur moi, donc personne ne comprend rien, les copains. Donc il dit que le calendrier. Peut-être long, mais nous, les joueurs, pouvons toujours choisir quel tournoi on joue ou pas.
Merci.
Et vu que je parle de Yannick Sinner, j'en profite pour vous redonner cette information. On en a parlé à 9h30 et on en fera un débat demain. L'Agence mondiale antidopage qui fait appel dans le dossier Yannick Sinner et qui demande une suspension d'1 à 2 ans. Toutes les dernières informations sur rmcsport.fr. On va se renseigner aujourd'hui et on propose demain un débat à partir de 9h.
Il va pouvoir reposer en même
temps. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Belle conclusion, Fred. Pour le débat caché. Il va vous plaire ce débat. Oh oui, vous me dites, ouais, c'est bien teasé. Vous allez l'adorer.
On a fait comment dire.
Et je peux vous dire que. Je pourrais pas le refaire. Je peux vous dire qu'il va vous faire réagir. Les poils vont se dresser dans quelques instants.
Voilà, le vendeur.
À tout de suite.
Je suis déjà assez énervé depuis 2h30, c'est bon, m'énerve pas plus.
Le dimanche matin, il est bon, mon coup.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h33, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marion Bartoli, Christophe Cessieux, Fred Weiss, Jérôme Pinault. Dans moins de 10 minutes, c'est votre moment, les auditeurs. Vous venez discuter avec les GG. Il s'est dit beaucoup de choses sur beaucoup de débats, notamment Lucien Riquet et Fabien Galthié. Vous n'êtes pas d'accord avec une GG, vous venez lui dire en face. Mais tout de suite, c'est le grand moment. Je vous l'ai promis, vous allez l'adorer. C'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien. Pour l'instant, elles doivent réagir. Sur l'instant, être affûtées, prêtes à en découdre. C'est votre job, même si vous ne connaissez pas le sujet. Le débat caché du jour, votre guet-apens. C'est ça. Je préfère les vélos moteurs. Il fallait s'attarder sur cette phrase. Appelez-le.
Alors là, c'est mystérieux, quoi. C'est un nouveau jeu, tu dois essayer de deviner par rapport à
de très, très loin.
Appelez-le. Le programme de récompense. Hier, l'Union cycliste internationale a lancé un nouveau projet. Le but, écoutez-moi bien. Le but, rétribuer financièrement des informations prêts à lui donner des renseignements sur d'éventuels cas de fraude technologique comme l'utilisation des moteurs. Ce programme, qui entre en vigueur dès à présent, visera à encourager les personnes disposant d'informations à ce sujet à les communiquer de manière confidentielle à l'UCI. Les récompenses peuvent être financières, en nature, telles que des articles ou l'accès à des événements. Et elles seront versées après vérification de la pertinence et de la fiabilité des informations fournies.
Quel est le peintre qui a
pensé ? En gros,
qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
De la délation, si vous avez des informations pour dire « Attends, attends, lui, il est suspect ». L'UCI s'engage à respecter et préserver l'anonymat de ses sources. Notre débat. Ce programme de récompense, pourquoi pas, je suis pour ou totalement contre ? C'est le débat proposé dans le débat caché. Votre réponse maintenant sur l'instant. Jérôme Pinault.
Totalement contre.
Marion Bartoli.
On sait rien. Plutôt contre, j'aime pas la délation.
Ok, plutôt contre. Fred Weiss.
Absolument contre.
Absolument contre. Christophe Cessieux.
Pareil.
Contre, ok. Je vais interroger le copain du vélo, Jérôme Pinault. Tu viens d'avoir cette information, tu viens de la prendre pleine poire, je le sens.
Mais oui, c'est juste. Alors déjà, je pensais pas les gens de l'UCI capables d'une telle connerie, mais pourquoi pas, ils en sont pas. C'est pas la première. Derrière de mettre en place un programme, quoi. Donc j'aimerais bien savoir quel est le mec qui a pondu ça. Écoute, on va mettre un programme de délation pour détecter des moteurs dans les vélos. Mais regardez les courses, en fait. Ayez les couilles d'aller taper dans les équipes qui utilisent ce genre de produits ou qui sont soupçonnés, qui sont très friands de la chose. Il faut juste aller taper dans les portes des équipes qui... Moi, j'y vais y aller, hein, y a pas de problème. Hein. On les a vus. David l'appartient, regarde la télé, tu vas vite voir. Il n'y a pas besoin d'un programme de délation. Hein. C'est juste regarder les images et comprendre. Si tu as un doute, tu y vas. Tu mets des émissaires, tu embauches des commissaires et tu vas. Avec l'argent de l'UCI, tu vas payer des gens. Il y a eu des cas de problématiques pour le vélo il y a quelques années. Chris Froome. Contrôlé positif à un produit, on ne sait pas, il y est, il n'y est pas. De sources sûres, l'UCI arrête la démarche parce qu'ils sont moins riches que l'institut qui va défendre Chris Froome. Et aujourd'hui, on va donner des sous à des gens qui vont venir te dire « Moi, j'ai un doute là ». Et on marche sur la tête. Si l'UCI veut détecter des moteurs dans les vélos, si l'UCI veut enfin faire arrêter ce spectacle clownesque parfois, mais ils savent très bien où aller, ils n'ont pas besoin des gens.
Est-ce que ça,
c'est un aveu de faiblesse,
voilà,
mais
j'allais
incroyable
dire. Est-ce que ce programme
d'une
de récompense,
fédération
c'est
internationale.
Preuve, c'est la preuve que l'UCI a des doutes et qu'en fait... Avec,
évidemment, ils ont des doutes puisqu'ils font un programme.
Est-ce qu'avec ces circuits traditionnels, bah, ils n'arrivent pas à vraiment rechercher la tricherie, donc ils demandent à des informateurs. En gros, c'est un programme d'indic.
Mais c'est pas du tout un programme d'une fédération internationale. C'est indigne d'une fédération internationale. C'est juste.
C'est, méthodes,
c'est,
oui,
de la, c'est de la méthode.
En fait,
c'est
de la méthode
organisée. Moi, ça me paraît choquant, scandaleux.
C'est de la com.
Je vais pas rentrer dans les détails par rapport à ce que tu expliques par rapport au vélo, mais concrètement, on est en train de dire à des gens, si tu trahis ton collègue, ton copain, tu l'as vu, tu vas le dire, on va te payer.
Parce que qui peut voir
un petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire pour faire ce genre de truc. Moi, je suis scandalisé.
Rappelons qui peut voir. Là, pour le coup, je désolé de prendre la parole souvent, mais là, on est dans le truc. Qui peut voir? Les équipiers des mecs.
Mais ce que je dis, c'est ton copain, c'est ton collègue.
Les directeurs sportifs des mecs.
Bien sûr.
Les mécanos des mecs et les patrons des équipes. Ok. Si ces gens-là, vous pensez vraiment qu'ils vont aller taper à la porte de l'UCI? Impossible. Tout le monde bouffe dans la même gamelle. Il n'y a personne qui va aller dire mon collègue, il prend un. Eh non, si je dis mon collègue, il utilise, j'ai des doutes sur l'utilisation.
Et remarque, c'est un moyen de pression. Tu peux pas virer quelqu'un parce que sinon il va te dire bah, si tu me vires, je vais te vendre.
C'est tellement
Jérôme,
petit.
Tu as des doutes encore, toi, sur l'utilisation, justement. Moi, ça m'étonne quand même que l'UCI relance ça. Est-ce que toi, tu as des doutes sur l'utilisation de vélos à moteur, à assistance électrique dans le peloton? Encore aujourd'hui. Il fut un temps, effectivement, où les soupçons étaient très forts.
On demande si tu as des doutes.
Ah bah oui, évidemment, j'en ai.
T'en as toujours. Tu penses que c'est toujours utilisé.
Donc, ça veut dire que l'UCI a des doutes.
Ah bah s'ils pensent ça, c'est qu'ils ont des doutes. Ouais. C'est qu'ils ont même plus que des doutes. Hein.
Ouais, oui, c'est ça.
Christophe, j'aimerais bien avoir ton regard sur cette information qui est très sérieuse, qui est sortie, c'est un communiqué hier de l'UCI, qui veut mettre en place ce programme dès maintenant, et c'est évidemment en marge des mondiaux qui ont lieu tout ce week-end à Zurich.
C'est pas la bonne méthode, la méthode de la délation. Ça me rappelle les sombres années de l'Europe du XXe siècle. J'ai pas envie de ce genre de choses. En plus, ça laisse libre cours à tu vas avoir toute la Ligue de l'Humanité qui va aller balancer des trucs, ah tiens, lui, je l'ai vu derrière le supermarché. Non, surtout, pas ce genre de choses. Il y a d'autres méthodes, effectivement, je pense, et je pense qu'il faudrait utiliser d'anciens pros ou des gens qui sont toujours dans le milieu et effectivement qui seraient délégués par l'UCI pour enquêter de manière plus sérieuse que de passer les vélos au rayon X. On sait que c'est complètement dépassé, qu'aujourd'hui la technologie permet sans doute d'utiliser des trucs qui sont cachés ou qu'on ne connaît pas. Toi qui es dans le vélo, qui justement vend des vélos aujourd'hui, tu pourrais peut-être nous en parler parce que tout ça est nébuleux.
Ce système marche, fonctionne très bien. On le voit dans tous les groupes de cyclotouristes du dimanche matin. Des gens qui ont adapté un moteur à leur vélo aujourd'hui, ça marche super bien. Personne ne voit qui. Alors évidemment, il y a des fils qui dépassent. Il y a eu un cas cette saison, hein, un cyclo dans une course UFOLEP, hein, un gars qui est associé à Vino dans l'équipe Astana.
Les deux qui ont jamais été chopés dans l'histoire des vélos dans les moteurs dans les vélos, c'était une pauvre amateur belge il y a 15 ans
à Zolder.
Et donc ce coureur-là, mais t'as jamais un coureur pro qui s'est fait choper alors qu'il y a eu quand même des contrôles qui ont été effectués.
T'as déjà vu un commissaire, un émissaire de l'UCI, un institut de contrôle pour les vélos, dire celui-là, on a un doute, on prend le vélo, on le découpe, on regarde ce qu'il y a dedans. Est-ce que t'as déjà vu ça une fois?
Ça n'existe pas. C'est ce que tu veux nous dire.
Ça n'existe pas. Oui. Propriété, tu peux pas détruire un objet comme celui-là. Tu peux. Tout est fait pour protéger. Tout est fait pour protéger l'utilisateur de ce genre de vélo. Il y a quand même eu les soupçons, on les connaît, ils sont publics. Il y a eu
Albert Contador. Ça va changer s'il y a de la délation. C'est-à-dire qu'en gros,
c'est de la com. C'est nous, on ne sait pas. Si vous savez, tu crois que quelqu'un va aller leur dire ça?
Oui, mais même si quelqu'un va leur dire,
ils veulent pas savoir.
Si tu ne peux pas ouvrir le vélo, comment tu le prouves?
Ben il faut des, voilà, ils peuvent pas, ils sont bloqués.
Donc ça sert à rien, absolument rien.
C'est pour ça que je te dis que c'est de la com.
Mais je te rejoins pour une fois.
C'est encore une fois un énorme aveu de faiblesse de l'UCI et de son président.
Est-ce que c'est pas un message envoyé peut-être justement au monde cycliste en disant les gars, on sait qu'il se passe des choses.
C'est comme quand on a découvert la méthode pour doser la cortisone. C'est quand on communique sur le fait que ça y est, on a trouvé pour le PO, pour l'hormone de croix. Évidemment, c'est pour dire les gars, faut faire attention parce que on pourra pas tout passer sous couvert. C'est exactement ça. C'est un peu à l'image de notre président actuel de l'UCI. Hein. C'est beaucoup de communication.
Ok, 11h43. Je savais que ça allait faire notamment beaucoup réagir Jérôme Pinault. Pardonnez-moi, Fred et Marion. Mais forcément, quand je suis tombé sur cette information, je me suis dit, il faut que j'en parle au GG parce que j'ai trouvé ça absolument incroyable.
Ça m'avait échappé.
Mais moi aussi.
J'étais en train de monter des vélos électriques, mais dans mon magasin. Mais pour le coup, là, les gens s'en servent. Ils savent.
Tu triches aussi. ils le savent, les gens. Ils l'achètent en connaissance de cause. Très bien. On se retrouve dans quelques instants. Pour les GG, vous n'êtes pas d'accord avec une GG, vous composez le 32-16 et vous venez lui dire en face. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
11h46, de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Marion Bartoli, Fred Weiss, Christophe Cessieux, Jérôme Pinault. Avant de vous accueillir les auditeurs, parce que vous n'êtes pas d'accord forcément, pas tout le temps d'accord avec nos GG, c'est le moment du grand jeu de la Super Bowl.
La Super Bowl RMC.
Oui, c'est la Super Bowl, mais on peut l'appeler aussi la Super Bowl. C'est Aurélien qui est avec nous, notre grand gagnant aujourd'hui. Salut Aurélien.
Salut.
Tu as été tiré au sort. Bonjour. Tu as été sélectionné au 732-16. Bravo à toi, mon cher Aurélien. Tu as déjà gagné le jeu eSport FC 25. Est-ce que tu es déjà heureux, mon cher Aurélien?
Ouais, très heureux, très heureux.
Alors, c'est pas terminé. Ouais. Parce que ça, c'est pour toi, c'est fait. Mais, devant moi, j'ai l'urne avec des boules à l'intérieur. Tu peux gagner en plus la PS5. Tu peux aller jusqu'à la PS5 et la télé, ou tu repartiras, j'ai envie de dire uniquement, mais c'est déjà un très beau cadeau, avec le jeu. Alors je commence à mélanger, ok, et tu me dis stop et je prends une boule au hasard.
Stop.
Ok. Je l'ouvre. J'ai l'impression d'être Gianni Infantino, c'est incroyable. Je déplie le Paris Saint. Non, rien à voir. Ça, c'est pour la Ligue des Champions. Tu as donc remporté le jeu eSport FC 25.
Oui.
Ça, c'est d'office. Ça, c'est pour toi. As-tu remporté quelque chose en plus? Mon cher Aurélien, tu as remporté en plus la PS5.
Trop bien.
Bravo
Aurélien, bravo. Je le montre. Voilà, merci. Comme ça vous pouvez aller le voir sur YouTube. La PS5 plus le jeu eSport FC 25. Bravo Aurélien.
Merci.
Bravo.
Merci beaucoup.
C'est un bon samedi matin à l'écoute des grandes gueules du sport. Tu es récompensé de la fidélité. Bravo Aurélien.
Trop bien. Merci. Merci à vous.
Allez, amuse-toi bien et je te retrouve demain. Hein. Demain 9h pour les grandes gueules du sport. Hein. Tu seras là, j'espère.
Merci, j'y fais.
Salut Aurélien, merci d'avoir joué avec nous. Sachez que si vous voulez faire comme Aurélien, eh bien c'est parti. On relance le top inscription. La Super Bowl RMC avec peut-être la télé, la PS5, le jeu eSport FC 25. Envoyez dès maintenant super par SMS au 732-16. Super au 732-16. Vous avez 5 minutes. Allez, on accueille les GG pas contents maintenant.
Sur RMC, jouez avec Micromania Zing et participez au tournoi officiel eSports FC 25 dans les magasins Micromania Zing. Infos sur micromania.fr.
RMC, les grandes gueules du sport
et vous.
Vous aussi, vous êtes des grandes gueules du sport. Et si vous nous appelez, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec l'une d'entre elles, au moins. Jérémy nous appelle au 32-16. Salut Jérémy.
Salut GG.
Salut.
Salut Jérémy.
Alors Jérémy, bonjour. La question toujours douloureuse au début. Hein. Tu veux affronter qui ce matin?
Malgré la différence de gabarit, je vais m'attaquer à Fred Weiss.
Fred Weiss, oula, donne-moi juste le sujet.
Fabien Galthié.
Fabien Galthié, on réécoute ce que disait Fred Weiss, qui défendait Fabien Galthié. Il n'est pas fragilisé par ses affaires et cette tournée en Argentine. On écoute.
Son job est évidemment d'être sélectionneur. C'est d'imposer un style de jeu, de montrer un style de jeu, d'être là, d'être présent, d'accompagner ses joueurs sur le terrain. Mais en quoi il doit s'occuper de ce qui se passe en dehors?
Bien sûr que dans t'as des règles de vie.
Il doit mettre des règles de vie, évidemment.
D'accord.
Mais c'est pas du tout à lui de les faire respecter. Il y a des gens qui sont là pour faire respecter ces règles.
Et grande Marion Bartoli dans ce débat, elle est réécoutée, évidemment. Fabien Galthié a dû apprécier. Jérémy, tu veux dire quoi à Fred?
Après, dans ce qu'il dit déjà, quand il dit qu'il est sélectionneur, justement, il est sélectionneur, il n'est pas juste entraîneur. Donc déjà, il y a la sélection des joueurs. Et donc après, au bout d'un moment, il est fragilisé du fait que c'est les joueurs qu'il prend. Et malheureusement, ils font des fautes à côté. Et donc maintenant, s'il veut montrer qu'il est en position de force, les joueurs-là, il ne les appellera plus. Et notamment Melvin Jaminet, là, avec ce qui s'est passé la vidéo. Il ne l'appelle plus, il condamne le geste. Comme disait Marion, je suis totalement d'accord, c'est qu'on ne l'entend pas. Il est absent, il a rien dit du tout, et puis voilà. Donc si vraiment il veut sortir un peu plus renforcé, il montre les muscles et il montre moi maintenant ça se passe comme ça. Et les joueurs qui ont fauté, ils reviendront plus.
Juste pour vous dire que Florian Grill cette semaine dans une interview a dit qu'il y aurait incompatibilité entre Melvin Jaminet et l'équipe de France. Donc a priori, il sera plus appelé par les Bleus dans les temps à venir. Quoi.
Fred, tu peux répondre notamment sur le côté silencieux de Fabien Galthié. On en a largement parlé à 10h.
Alors je suis complètement d'accord. Son rôle justement de sélectionneur et pas que d'entraîneur, je te rejoins complètement. Mais par contre, en tant que sélectionneur, effectivement, tu montres les muscles au moment de faire la sélection. C'est-à-dire que, en gros, quand on va lui demander qui je sélectionne, Jaminet, il va pas le prendre, par exemple, et d'autres parce qu'ils sont sortis, etc. Je pense que son rôle est plus à ce moment-là. Je pense que la FFR doit prendre les dispositions, doit communiquer, doit faire les annonces. Mais par contre, à l'heure de la sélection, c'est à lui de trancher, effectivement. Et c'est là qu'il montrera les muscles. Et s'il montre les muscles, on aura un débat en disant, est-ce qu'il montre bien les muscles au bon moment?
Tu mets toujours la FFR au-dessus en disant, il peut se cacher derrière ça.
Il peut se cacher derrière son employeur.
Il est très fédéraliste.
Mais je pense que son employeur et son président communiquent sur le journal de l'équipe justement dans ce sens-là, en disant, c'est un employé de la FFR.
Bon, Jérémy, rassure-toi, tout le monde était contre lui. Donc je pense que les autres GG sont d'accord, vas-y.
Mais Jérémy, merci.
Je ferai le parallèle.
Il s'est mis à genoux même, il nous a dit pardon.
Vas-y Jérémy.
Je ferai le parallèle avec Deschamps, même si je n'ai pas été d'accord avec ce qu'il a fait avec Benzema, mais au final, il a pris la décision seul, puisque la fédération n'a jamais trop au début communiqué. Après que Deschamps a dit non, je ne le prends plus, mais Le Graet disait non, il est toujours sélectionnable. Et là, il a fait ce qu'il avait à faire, et pourtant c'était un cadre extra-fortif sur le terrain. Parce que je sache, tout le monde disait qu'il était... Qu'il était largement sélectionnable. Donc c'est pour ça que, même si j'étais pas d'accord avec ce que Deschamps a fait, au moins il a fait son rôle de sélectionneur jusqu'au bout et il a dit non, moi je le prends pas, il y a une affaire à côté et on n'en parle plus.
Et il a assumé, c'est ce que tu veux dire.
Non mais
c'est
juste un problème, parce qu'on est d'accord. On est d'accord sur le principe, il est sélectionneur, il sélectionne pas du fait qu'ils aient fait des bêtises, mais c'est pas à lui de communiquer dessus.
Ok, là où vous n'êtes pas d'accord, c'est que lui dit qu'il est fragilisé tout de même. Exactement. Et c'était l'essence de notre débat. Merci Jérémy d'avoir composé le 32-16. Vincent maintenant nous appelle. Bonjour Vincent.
Oui, bonjour à tous.
Bon, tu vas affronter qui ce matin?
Je crois que c'est Jérôme qui parlait de Luis Enrique particulièrement tout à l'heure.
Ah, Luis Enrique, est-ce que son discours sur les 25 ou 50% en moins de son salaire pour ne pas parler à la presse, tout le monde a trouvé ça insupportable?
Oui,
et toi, je pense que tu veux défendre Luis Enrique. On réécoute ce que disait Jérôme.
Insupportable parce que déjà tout à l'heure je l'ai évoqué, c'est ton job, tu viens entraîner le Paris Saint-Germain, t'es entraîneur professionnel, t'es sportif professionnel, tu sais qu'il y a des interviews avant match, après match, et que tu vas passer autant de temps à préparer tes matchs, à les faire exécuter qu'à répondre à la presse, c'est ton job. Et ça me paraît encore plus insupportable avec Luis Enrique.
Ok, à toi de défendre hein, mon cher Vincent, Luis Enrique, t'attaquer à Jérôme.
Oui, j'écoute tout ce qui a été dit, mais ce qui est aussi très insupportable, c'est les conférences de presse du Paris Saint-Germain qui sont récurrentes depuis des années. Les questions qui reviennent à chaque fois, malgré le match, quel que soit le match du Paris Saint-Germain, qu'il soit bon ou mauvais, on va nous parler de ce qui ne va pas. C'est très négatif, toujours négatif. On nous a parlé de Kylian Mbappé pendant des semaines après son départ, peu importe le match. on nous parle de ce qui ne va pas, mais on ne parle jamais des recrues actuelles, par exemple Pacho ou João Neves, qui sont très bien intégrés, qui font des bons matchs. On nous parle vraiment de ce qui ne va pas. Dans le discours de Luis Enrique, c'est ça. Et Thomas Tuchel l'avait dit avant lui il y a quelques années, il était lassé de ces questions un peu serpillères qui revenaient tout le temps, qui venaient nous parler tout le temps de ce qui n'allait pas, et on ne parlait finalement que très peu football ou des choses positives. Pour le match de Rennes, il y a 10 minutes à la fin qui sont compliquées et on parle principalement de ces 10 minutes. Alors qu'on parle de choses négatives après un match contre Gérone, c'est normal, le match a été poussif, très compliqué, voire mauvais, mais contre Rennes, ils ont fait plutôt dans l'ensemble un bon match avec des absents, et ils ont rendu une copie qui était plutôt positive, et malgré tout, ce qui revient, c'est ça. Donc je comprends un peu sa lassitude et ça fatigue.
Et ben, il faut qu'il change de métier.
Et c'est un point de vue intéressant tout de même. C'est-à-dire que ben c'est vrai que les journalistes.
Posent... C'est très intéressant, mais dans le sens où moi, je défendrai toujours cette idée-là, que c'est son job. Et même si c'est toujours les mêmes questions, les joueurs, les sportifs, les entraîneurs ont fait toujours les mêmes choses, quelque part. Si tu t'en lasses, ben arrête. C'est tout. Fais autre chose. Tu sais très bien que quand tu entraînes le PSG, il est pas né de la dernière pluie. Luis Enrique, il sait qu'on va lui poser des questions. J'entends Vincent sur, ouais, on nous a parlé d'Mbappé pendant des matchs après qu'il soit parti et là en début de saison. Bah, évidemment que c'est l'attractivité et l'attraction du début de saison. Comment va jouer Mbappé? Comment va jouer le PSG sans Mbappé? Luis Enrique, il s'est pas quand même imaginé arriver en conférence de presse lors des deux premiers matchs en disant, bon, impeccable, on va plus me parler d'Mbappé. Il le sait. Et moi, en plus, j'en rajoutais une couche sur la conférence, sur le fait d'être face à la presse et de prendre la presse pour des cons et de faire celui qui aime pas répondre à ça, qui préférait se concentrer sur le terrain. À côté de ça, il fait des visios, il fait des séries sur Movistar et il fait des podcasts. Si t'aimes pas parler de tout ça et que t'en as marre de t'expliquer sur certaines choses, bah, ne fais pas ça non plus.
Okay.
Pour moi, ça fait partie de son métier d'entraîneur.
Vous avez pu vous exprimer avec Vincent. Merci Vincent d'avoir composé le 32-16. Évidemment, tu nous rappelles quand tu veux si tu n'es pas d'accord avec une GG. Christophe, Fred, Marion et Jérôme, merci beaucoup les copains.
Merci beaucoup.
Pour ce samedi matin. Très belle émission. Hein. Vraiment, je vous félicite. Ouais, allez, j'applaudis. Il n'y aura rien en plus. Hein, mais je vous applaudis. Pour moi, la reconnaissance
est un peu à la boule.
Et sachez que vous êtes reconduit demain. Ok, à partir de 9h. Et on va parler notamment de Yannick Sinner. On va prendre toutes les informations sur cette histoire de dopage que l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, réclame 1 à 2 ans de suspension. Nous l'avons appris ce matin. On en reparle demain. Et bien d'autres sujets.
On va vélo demain un peu.
Le vélo avec l'équipe de France, de Thomas Vauclair. On en parle demain, mon cher Christophe. Rassure-toi. Plein de débats. Ça va être fantastique. À demain. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans quelques instants, les Paris RMC.